Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on s'intéresse au Covid long, ce Covid qui persiste après une période normale de convalescence, une persistance des symptômes anormalement longue, au-delà de 3 ou 4 semaines, qu'il s'agisse de personnes hospitalisées ou non, fatigue, douleurs articulaires, maux de tête, difficultés de concentration, sensation de brouillard cérébral, vertige, perte du goût et de l'odorat, troubles digestifs, des symptômes qui handicapent fortement la vie quotidienne. Nous verrons quels sont les examens qui permettent d'affirmer qu'il s'agit bien d'un Covid long et surtout comment s'en sortir, quel est le programme de remise en forme, bref, comment redevenir comme avant. Nous attendons toutes vos questions sur le Covid long au 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli France Inter. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ami.
Vous êtes l'ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale avec ce matin un excellent papier du Parisien qui raconte votre engagement sincère au sein de la FRM. Alors nous verrons ensemble les dernières piste de recherche sur le Covid long.
Oui, je suis allé voir deux équipes de recherche à l'Institut Pasteur.
Bonjour Baptiste Beaulieu, bienvenue.
Bonjour Aline.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
On va parler pandémie du monde d'avant, la vaccination.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Souvent, comme ce sont des manifestations qui ne se voient pas, qui ne se mesure pas bien, qui ne s'évalue pas bien non plus dans les examens complémentaires, ben en fait, on est plutôt nié. C'est vraiment le propre de cette situation, même si on ne peut pas nous proposer un traitement, même si on ne peut pas nous proposer concrètement de faire disparaître ou même simplement nous dire à quel moment ça sera mieux. On a besoin d'abord qu'on nous reconnaisse dans la situation qui est quand même handicapante et qui est quand même dure à gérer au quotidien. Pour soi, pour les proches. Oui, même si je suis médecin, je vis assez mal, parfois, la non-reconnaissance de la part des collègues. Tant qu'on n'a pas finalement vécu, intégré ces symptômes dans son corps, on n'a pas forcément une bonne appréhension de ce qui se passe.
Le témoignage sur France Bleu en mars 2021 d'un médecin hospitalier dans les Vosges atteint d'un Covid long. Le Covid long, un handicap invisible, encore difficile à reconnaître dans le corps médical. Bonjour docteur Olivier Robineau. Vous êtes infectiologue, vous exercez au service universitaire des maladies infectieuses et voyageurs au centre hospitalier de Tourcoing et vous avez mené avec l'INSERM une étude sur le Covid long, symptôme persistant de la Covid-19, l'émergence d'une nouvelle pathologie chronique. Bonjour docteur Laurent Usan.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue du sport, directeur du diplôme universitaire de cardiologie du sport à la Pitié-Salpêtrière. Avec nous également le docteur Nicolas Barizien, bienvenue.
Bienvenue, bonjour à tous.
Vous êtes médecin du sport, chef du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Foch de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Marie-Pierre Samitier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé en santé et société et vous publiez tous les trois chez Marabout, Covid long, comment s'en sortir? Alors rappelons tout d'abord que le SARS-CoV-2 est un coronavirus qui se transmet facilement par les micro-gouttelettes de salive que nous émettons en parlant, en toussant, en éternuant et en respirant. Sa diffusion en aérosol est très rapide, il est très contagieux, en particulier le variant Omicron. Alors quelles sont les grandes formes du Covid, de la Covid, docteur Olivier Robineau?
Eh bien, les grandes formes, en fait, c'est assez difficile de, pour l'heure, en tout cas, de faire des grands cadres en disant que il y a des patients qui ont plus tel symptôme ou tel symptôme. On reste encore dans une situation où on a des patients qui ont des symptômes extrêmement protéiformes, et donc on a un peu du mal à encore à l'heure actuelle créer, en fait, catégoriser les patients, ce qui serait très important également pour faire de la recherche sur les hypothèses physiopathologiques. Mais globalement, les patients, ils se plaignent essentiellement de fatigue, de troubles cognitifs, de douleur, d'essoufflement. C'est vraiment les grands symptômes qui sont au premier plan chez les patients. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont énormément de mal à faire des efforts et à récupérer après ces efforts.
Mais on peut dire qu'il y a le Covid asymptomatique, le Covid léger, le Covid modéré et le Covid grave.
Alors, c'est
de
ça
façon
aussi
très schématique.
Alors, de manière très schématique, on va dire qu'il y a le Covid aigu. Le Covid aigu qui peut être grave, c'est-à-dire amener les gens à l'hôpital, et des formes modérées ou très modérés, voire asymptomatiques, que l'on retrouve en ville. Et par contre, les patients qui sont dits Covid long, donc qui ont des symptômes qui persistent après l'infection par le SARS-CoV-2, peuvent être des patients graves, c'est-à-dire initialement qui sont allés à l'hôpital et des patients qui ont fait un Covid ambulatoire, c'est-à-dire en ville, qui ont des symptômes qui persistent. Et c'est ça la grande difficulté que les gens ont avec cette pathologie, c'est que c'est pas parce que ce n'était pas grave initialement que ce n'est pas extrêmement handicapant sur la durée.
Docteur Laurent Usan, faut-il s'inquiéter si les symptômes du Covid durent au-delà de 3 ou 4 semaines?
Alors il faut commencer en tout cas effectivement aller voir son médecin et en discuter avec lui, parce qu'habituellement après toute infection virale, il y a quand même une phase de fatigue qui peut persister plusieurs semaines derrière. Après, effectivement, quand on commence à dépasser un mois et demi de fatigabilité, de symptômes inhabituels, en fait, c'est le côté inhabituel et persistant des choses. Et là, effectivement, il faut commencer à aller voir son médecin parce qu'il y a certains examens qui vont nous permettre d'orienter, de pouvoir dire, voilà, effectivement, on est juste sur des choses banales parce que vous avez eu un Covid assez costaud et donc vous pouvez être encore fatigué quelques semaines après, ou bien c'est pas normal, effectivement il faut qu'on aille un peu plus loin.
Ce qui inquiète les patients atteints d'un Covid long, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas guérir. Marie-Pierre Samitier, vous avez rencontré de nombreux patients après une période de convalescence normale. Les patients ont l'impression d'être limités dans leur vie quotidienne.
Absolument, ils sont limités et d'ailleurs ils découvrent aussi un phénomène cyclique, c'est-à-dire que ils peuvent très bien avoir une période de calme et ensuite se retrouver avec les pathologies dont nous avons parlé tout à l'heure, de l'essoufflement, les problèmes de rythme cardiaque, très important d'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé, des troubles cognitifs, cette fatigue immense qui est récurrente. Et donc ces cycles en fait les surprennent parce qu'ils ne sont pas forcément réguliers.
Et cette impression de ne pas retrouver sa vie d'avant,
voilà,
qui est assez anxiogène.
C'est le premier point, effectivement, pour ce Covid long, c'est cette impression de ne pas être comme avant et de devoir traîner un boulet, en quelque sorte. C'est l'impression principale qu'ils éprouvent.
Docteur Laurent Usan.
Oui, c'est exactement ça, effectivement. Il y a cette impression de qu'on ne comprend pas et qu'on n'est pas capable de leur expliquer. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très anxiogène pour eux. Et le fait de se sentir diminué est clairement pas du tout comme avant.
Olivier Robineau.
Oui, ce qui est très important avec ce qui vient d'être dit, c'est que effectivement, on ne comprend pas encore tout, mais par contre, c'est très important pour les patients de leur expliquer qu'on a bien conscience que ça existe et qu'ils ne sont pas fous, en réalité, que ces symptômes existent parce qu'ils les ressentent. Et c'est vraiment la chose la plus importante que l'on fait tous les jours quand on voit des nouveaux patients.
Écoutons tout de même Jennifer, 36 ans, c'était sur France 24 en avril 2021.
Je suis allée 3 fois aux urgences à la demande de mes médecins. À chaque fois, je n'arrivais quasiment plus à marcher. Tellement j'avais mal, tellement j'étais essoufflée. Et systématiquement, on m'a renvoyée chez moi avec du Doliprane en me disant « C'est normal, c'est le coronavirus, limite arrêtez de vous plaindre en fait, ça va passer. »
Mais ça ne passe pas. Au contraire, Jennifer découvre finalement que le Covid a provoqué une péricardite, une inflammation de la membrane du cœur.
Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai décidé d'aller consulter à l'hôpital américain à Paris. Donc je suis allée dans un hôpital qui coûte très cher, que je dois payer moi-même, et pour qu'on m'annonce que j'ai des séquelles irrémédiables. À cause des personnes qui m'ont reçue précédemment et qui n'ont pas pris au sérieux mes symptômes, je vais le payer en fait pour le reste de ma vie.
Alors certains médecins ont du mal parfois à entendre la plainte de ces patients atteints d'un Covid long, Marie-Pierre Samitier.
Oui, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une espèce de refus, en tout cas un manque d'écoute à ce propos. Certains médecins semblent fermés à cette hypothèse du Covid long qui pour l'instant n'est pas entièrement confirmée, hein, bien entendu. Je veux parler sous le contrôle des médecins qui sont autour de cette table, mais il y a tout de même de forts indices et nous attendons une reconnaissance d'ailleurs de la Haute Autorité de Santé sur cette question-là qui pour l'instant n'est pas encore validée. Mais moi je pense que les patients ont besoin justement d'espoir et surtout d'explications concrètes. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs écrit ce livre avec Nicolas Barizien et Laurent Usan. Il y a par exemple, nous parlions de péricardite, des solutions, un travail, Laurent Usan est cardiologue, un travail à faire dans les premières semaines qui suivent justement cette prise de conscience et qui peuvent permettre d'améliorer les situations.
Docteur Olivier Robineau, sur le témoignage de Jennifer.
Oui, c'est éloquent et c'est assez malheureusement une situation encore assez fréquente. Je crois qu'il faut vraiment dire les choses de manière très claire, c'est que les symptômes post-infectieux liés au SARS-CoV-2, donc ce qu'on appelle le Covid long ou les Covid longs, parce que probablement qu'il y a plusieurs types de personnes vraiment différentes, c'est vraiment quelque chose qui existe, ne serait-ce que par le fait que parce que les gens se plaignent de symptômes qui sont arrivés à ce moment-là et qui persistent encore. Et donc ça, il faut l'entendre. Et la grosse difficulté qu'on a dans le corps médical, c'est qu'en fait, pour raisonner, on a besoin d'une cause physiopathologique plus ou moins précise tout de même. Et à l'heure actuelle, le champ des possibles à ce niveau-là reste extrêmement large. Donc il y a une grande difficulté pour les médecins d'aborder une pathologie pour laquelle on n'a pas encore une hypothèse physiopathologique vraiment solide pour expliquer les symptômes.
Docteur Nicolas Barizien.
Oui, alors ce qu'il faut aussi rappeler aux auditeurs, c'est que on a appris quand même énormément de choses depuis ces bientôt 2 années, en particulier sur le Covid aigu, mais également sur le Covid long, c'est-à-dire que ces histoires de péricardite, on sait maintenant qu'il faut systématiquement les rechercher dès qu'il y a une symptomatologie cardiaque, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an, de même que certains examens scanners thoraciques de contrôle, des examens de capacité respiratoire doivent être faits. Donc aujourd'hui, on a un peu un schéma de prise en charge des patients chez qui on suspecte un Covid long, qui est beaucoup plus arrêté, qui est diffusé par la HAS et qui permet à tous les médecins de dire j'ai un patient chez qui suspecte un Covid long, je vais faire une batterie d'examens pour éliminer des pathologies dont on sait qu'elles peuvent apparaître après cette infection virale et dont on sait les prendre en charge et les traiter.
Alors ce Covid long reste encore mystérieux avec des symptômes très variables en importance et en diversité, avec des problèmes pulmonaires ou cardiaques, on l'a dit, des maux de ventre, des affections de la peau, des dysfonctionnements neurologiques, des pertes de goût ou d'odorat. Alors pourquoi certains développent un Covid long et d'autres pas, docteur Olivier Robineau? Qui sont ceux qui sont frappés par ces Covid longs?
Alors ça, c'est une excellente question. Pour l'instant, on a très très peu de facteurs prédisposants au fait de faire un Covid long. Les choses qui sortent un peu dans la littérature, c'est le sexe, hein, c'est-à-dire que les femmes ont plus de risques d'avoir des symptômes qui persistent. Et puis la sévérité initiale, c'est-à-dire qu'on a été on a été à l'hôpital, on a plus de risques d'avoir des symptômes qui persistent, mais probablement également dû à des lésions que l'on peut objectiver chez ces personnes-là, enfin, en tout cas sur un certain nombre d'entre eux. Et il y a également l'intensité des symptômes de la phase aiguë, c'est-à-dire le fait d'avoir eu beaucoup de symptômes à la phase aiguë de la maladie fait qu'on a plus de risques d'avoir des symptômes qui persistent au cours du temps. Après, pour les autres hypothèses, il y a plusieurs choses qui sont en train de sortir dans la littérature, notamment des marqueurs immuno-inflammatoires qui sont en cours d'études, et il semble que quand il y a une réaction inflammatoire très importante à la phase initiale, qui est probablement corrélée aussi avec les symptômes initiaux importants, il peut y avoir des symptômes qui persistent.
Alors, prévalence pour les femmes et les personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé, un profil opposé aux patients hospitalisés en réanimation lors de la première vague, c'est-à-dire grosso modo des hommes de plus de 75 ans, sédentaires, en surpoids et avec des comorbidités.
Oui, alors le diabète est peut-être également associé aux symptômes persistants. En fait, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que évidemment les patients qui étaient hospitalisés pendant la première, enfin même toujours, sont majoritairement des hommes, et il semble qu'ils récupèrent un peu plus vite que les femmes sur un certain nombre de symptômes, en effet.
Allez, dans un instant, on s'intéresse aux différents symptômes liés à ce Covid long. En attendant, c'est l'heure de la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, je voulais vous parler de comment l'autre jour, une complotiste, qui est très suivie sur les réseaux sociaux, a écrit, 2 points, ouvrez les guillemets, dites donc comment les gens se soignaient avant les vaccins. Ils crevaient, j'imagine. Et cette phrase était suivie d'une image qui se moquait des personnes qui se vaccinent contre le Covid. Alors, beaucoup de gens riaient de cette personne, comme c'est devenu monnaie courante, vous savez, Ali, sur les réseaux, où on se moque de gens qui se moquent de nous, le tout dans un festival et une orgie d'invectives et d'injures, bref. Pour autant, cette personne, elle soulève un point intéressant. Comment c'était avant, Ali? Et comment c'était en temps d'épidémie? Un petit panorama du monde d'avant et des pandémies ayant tué plus de 100 000 personnes en France. Alors, la peste noire, par exemple, ou peste bubonique, elle est due à une bactérie, Yersinia pestis, et au XIVe siècle, on estime qu'elle a tué 50% de la population européenne en 5 ans lors de la première vague. Une personne sur 2. Aujourd'hui, on la traiterait avec les mesures de distanciation sociale et d'hygiène, des antibiotiques courants. Et il existe une vaccination protectrice, mais qu'il faut renouveler tous les 4 mois. Et pour tout vous dire, 5 Américains en sont morts quand même en 2015. Alors ne faites pas comme moi, Aline, n'allez pas voir les photos sur Internet. Ça peut soigner, hein, remarque. À Venise, on confinait les malades dans leur maison, puis on les envoyait sur une île nommée Lanzaretto Vecchio. Aujourd'hui, on peut la visiter, cette île, prendre des selfies, comme quoi les choses changent, et c'est tant mieux. La grippe espagnole, c'est 100 millions de morts dans le monde au début du XXe siècle, 5% de la population mondiale. Elle est due à un virus respiratoire qui a muté, et je parle du nombre de morts, mais elle a laissé des millions de gens sur le carreau avec des poumons transformés en raisins secs, Ali. Aujourd'hui, on la préviendrait avec des gestes barrières, l'hygiène, et on la traiterait avec des antibiotiques pour les surinfections pulmonaires et un vaccin pour la souche virale. Mais pour vous donner une idée, je prends une ville au hasard. La mortalité infantile dans la ville de Québec en 1900, c'était de 665 morts sur 1332 naissances, soit un taux de 49%, un enfant sur deux en gros. Les décès étaient essentiellement dus soit à la diphtérie, la rougeole, la scarlatine, trois maladies qui ont été éradiquées par les vaccins et les antibiotiques. Actuellement, j'accompagne au cabinet médical un patient survivant du virus Ebola, Ali. Il s'agit d'un patient qui souffre de nombreuses séquelles, qui a contracté la maladie dans son pays d'origine. Et près de 90% de la population de son village en est morte. Le meilleur moyen pour éradiquer cette maladie reste à ce jour la vaccination, mais le village d'où vient mon patient n'avait pas pu avoir accès au vaccin à temps. Alors évidemment, Ali, je ne suis pas dupe, je ne fais pas la pub des laboratoires pharmaceutiques, ce ne sont pas des instituts philanthropiques, ils ont un certain nombre de casseroles aux fesses et la plupart d'entre elles sont plus que justifiées. Cependant, en tant que scientifique, je ne peux que reconnaître l'existence d'un paradoxe terrible, Ali. Plus une technologie va faire reculer des maladies, et donc plus ces maladies disparaîtront du paysage, plus les gens seront suspicieux sur l'effet réel, voire délétère, de cette avancée scientifique.
Baptiste Beaulieu, et vous parliez de la peste, je recommande la lecture de l'histoire de la peste de Jean Vito au PUF. Très très instructive lecture. Et vous pouvez podcaster la chronique de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter et sur l'appli Radio France. Et je remercie le docteur Nicolas Barizien d'être intervenu dans cette émission. Il doit filer dans son service. Dans un instant, donc, on continue à explorer les symptômes du Covid long et les moyens de s'en sortir. En attendant, on écoute Nina Simone. Ain't got no, I got life.
Nina Simone interprétait And Got No, I Got Life.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
10h26, comment sortir du Covid long? C'est notre thème ce matin. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. J'aimerais poser une question à nos invités, une question qui revient ce matin. Quels sont les examens qui peuvent confirmer un Covid long? Docteur Laurent Usan.
Alors en fait, il y a plus. Déjà, ça dépend des symptômes initiaux, oui. Effectivement, parce qu'il va falloir s'orienter sur les symptômes qui concernent le patient ou la patiente. Et donc, effectivement, en fonction de ces symptômes-là, il va falloir d'abord éliminer des pathologies autres qu'on connaît bien. Par exemple, pour parler des problématiques cardiaques, si j'ai des palpitations, si j'ai des douleurs dans la poitrine, de l'essoufflement, je vais d'abord éliminer l'angine de poitrine, c'est-à-dire des artères qui sont bouchées. Je vais d'abord éliminer des anomalies du muscle cardiaque, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Donc effectivement, on va faire une échographie du cœur, on va faire un électrocardiogramme, un test d'effort par exemple, et ça va nous permettre déjà d'éliminer ces éléments-là et de pouvoir après effectivement s'attaquer à qu'est-ce qui aurait pu, dans le Covid ou à cause du Covid, expliquer ces symptômes.
Si je vous comprends bien, si les examens de biologie standard s'avèrent normaux, alors on peut penser à un Covid long.
Exactement. En fait, on agit souvent par élimination d'abord des causes principales qui peuvent expliquer les symptômes avant de s'orienter sur le Covid long. C'est, on va dire, de façon un petit peu basique, c'est un diagnostic d'élimination. Des autres diagnostics.
Et si l'on suspecte un Covid long, il faut faire un bilan d'évaluation multidisciplinaire, c'est ça ?
Tout à fait.
Expliquez-nous.
Alors en fait, les patients, comme vous l'avez très bien dit, ont des symptômes qui sont extrêmement variés. Des symptômes digestifs, des symptômes neurologiques, des symptômes respiratoires, des symptômes cardiaques. Et on n'a pas malheureusement la capacité, on est tous devenus maintenant des ultra spécialistes. Et donc on va être obligé, on va dire, de travailler ensemble, ce qu'on faisait peut-être moins avant, pour pouvoir faire le bilan, comprendre ce qu'ont nos patients et pouvoir les orienter au mieux sur la prise en charge, parce que quelqu'un qui se plaint d'une fatigabilité et de troubles neurologiques, on ne va pas le traiter de la même façon que celui qui a des palpitations et des troubles digestifs.
Docteur Olivier Robineau.
Oui, c'est tout à fait ça. En réalité, les patients nécessitent un bilan initial qui doit être bien fait, pas forcément extrêmement extensif, parce que étant donné que justement on sait que beaucoup d'examens sont normaux, il y a une risque de fuite en avant, de réaliser des examens qui peuvent être potentiellement anxiogènes. Donc en fait, l'intérêt de travailler de manière multidisciplinaire, c'est pouvoir dire aussi avec des collègues, là on a fait le point sur ces symptômes avec ces différents examens complémentaires, on ne va pas aller plus loin, on va dire que c'est un Covid long et on va lui proposer une prise en charge coordonnée ou à l'hôpital ou en ville pour la plupart des patients.
Très bonne question de Laurence qui nous demande, sait-on pour les personnes développant un Covid long, quel est le pourcentage de vaccinés et de non-vaccinés, docteur Olivier Robineau?
Alors, on ne sait pas exactement combien il y a de personnes non vaccinées ou vaccinées qui font un Covid long. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le fait d'être vacciné protège diminue de près de moitié le risque d'avoir des symptômes qui persistent. Donc ça, c'est un premier élément vraiment qui va vraiment dans le sens de la vaccination. Alors pourquoi ? Il y a plein d'hypothèses, mais en tout cas, une hypothèse qui paraît intéressante, c'est de se dire que la vaccination, déjà, bon, évidemment, elle empêche un certain nombre de contaminations, mais surtout, elle diminue l'intensité de la pathologie qu'on aurait faite si on n'avait pas été vacciné. Et donc, vu qu'il y a un lien entre l'intensité initiale de la maladie et la persistance des symptômes, on peut imaginer que quelque chose se passe là. Par contre, en termes de traitement, est-ce que des personnes Covid long, si on les vaccine, est-ce que ça les améliore? Là, il n'y a rien qui va dans ce sens à l'heure actuelle dans la littérature.
Alix nous écrit, j'ai 44 ans, je suis positif de la première vague. C'est quoi un Covid long? Eh bien, c'est une pochette surprise que tu ouvres tous les matins avec deux objets. Un boomerang, ce sont les symptômes que tu croyais partis et qui reviennent. Et un minuteur avec compte à rebours intégré quand tu crois que ta journée va durer 24 heures et que finalement ce sera plutôt une demi-heure, 2 heures ou 4 heures, car après tu ne peux plus rien faire car tu as épuisé tout ton stock d'énergie. J'aimerais qu'on s'attache à cette fatigue ressentie après le Covid-19 et dont parle notre auditrice. C'est un signe qui revient chez l'ensemble des malades, Marie-Pierre Samitier. Je rappelle que vous avez écrit Covid long avec Nicolas Barizien et Laurent Usan.
Oui, nous avons écrit ce livre qui est un outil en fait pour ceux qui justement voudraient être aidés, sachant que les consultations pour le Covid long sont pleines. Donc,
mais sur la fatigue, c'est une plainte qui est récurrente chez les patients que vous avez interrogés.
La fatigue, justement, et nous avons même des personnes, des femmes, souvent, puisque nous le disions tout à l'heure, jeunes, en pleine forme, qui ont des enfants en bas âge, et qui se trouvent dans un état de fatigue ressemblant à ceux de personnes de l'âge de 80 ans. C'est en tout cas ce qu'elles ressentent profondément. C'est une fatigue qui est persistante, qui ensuite peut s'estomper, On parlait de pochette surprise à l'instant, cette auditrice le disait, mais c'est ça la question, c'est pourquoi est-ce que ça revient? Et cette fatigue est un véritable boulet, c'est le terme qu'elles emploient quand on les interviewe. Moi, je les vois qui peinent, qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent même se trouver sur un fauteuil roulant, ne pouvant même plus traverser la rue alors qu'elles ont des enfants de 3, 4 ou 5 ans. J'ai un témoignage dans le livre qui raconte très bien ça, et qui effectivement se trouvant dans un fauteuil roulant voient leur vie basculer alors qu'elles sont dans la force de l'âge. C'est surprenant.
Docteur Laurent Usan, cette fatigue liée au Covid long, c'est un syndrome de fatigue chronique?
Alors ça ressemble effectivement au syndrome de fatigue chronique. Après, il faut savoir quand même qu'on a plusieurs types de virus qui ont donné ce genre de choses. La mononucléose infectieuse, par exemple, dont on a tous entendu parler quand on était ado principalement. On a des gens comme ça qui traînaient plusieurs mois.
La maladie du baiser.
Exactement. C'est tout à fait ça. Qui traînaient plusieurs mois cette sensation de fatigue, de fatigabilité. Donc c'est pas quelque chose de nouveau dans les syndromes viraux. Maintenant, effectivement, avec le coronavirus, ce qui est assez étonnant, c'est ce côté on-off, ce côté où vous pouvez avoir une journée parfois tout à fait normale, et puis de tout d'un coup, ça vous arrive, et vous avez effectivement une autonomie de batterie de une demi-heure à deux heures dans la journée. Et c'est là où il faut qu'on arrive à les prendre précocement, parce qu'on se rend compte quand on arrive à prendre les patients en charge de façon rapide, on a quand même une atténuation des symptômes, voire une disparition pour la plupart.
Et en l'espèce, quel est le bilan biologique posé?
Bah déjà, effectivement, faire un bilan de prise de sang d'abord, parce que, par exemple, les problèmes thyroïdiens peuvent donner une fatigabilité chronique, ce genre de choses, les problèmes d'anémie, de carence en fer. Donc, on est obligé de passer d'abord par la phase, effectivement, d'appréciation initiale et d'élimination des autres pathologies, avant de se lancer, effectivement, dans « vous avez un Covid long et on va vous prendre en charge ».
Docteur Robineau ?
Oui, ce qui est très important, là, ce qui vient d'être dit, c'est que, en fait, on a l'impression que, alors c'est pas encore vraiment démontré, mais on a l'impression que le plus tôt on prend en charge les gens, le mieux ça se passe. Et c'est pour ça que les recommandations de la Haute Autorité de Santé proposent de commencer des bilans à partir de un mois, alors que la définition du Covid long, on dit que c'est 3 mois. Alors c'est très arbitraire, hein, le 3 mois, le 1 mois, mais c'est justement pour ça, c'est pour dire qu'en fait, il faut prendre en charge les gens assez rapidement pour les remettre le pied à l'étrier et bien sûr s'assurer, par exemple, on a parlé de la péricardite tout à l'heure, c'est un diagnostic qu'il faut faire assez rapidement parce qu'il y a des traitements à mettre en route, évidemment.
C'est quoi une péricardite, en quelques mots?
Alors une péricardite, en fait, vous savez, quand vous avez un virus, vous pouvez faire une sinusite, une bronchite, c'est-à-dire le virus va se loger dans les poumons, dans les sinus, etc. Bah là, il va se loger sur l'enveloppe du cœur, qu'on appelle le péricarde. Et comme quand on a la sinusite, vous avez le nez qui coule, là, il va y avoir un petit peu de liquide qui va se mettre entre l'enveloppe et le cœur. Ça décolle un petit peu les deux, et donc ça donne des douleurs dans la poitrine. Et donc, c'est ce qu'on appelle une péricardite.
Question de Thierry Lhermitte.
Oui, sur les 20 et quelques millions de personnes qui ont été contaminées par le virus, il y en a combien qui font des Covid longs? Et quel rapport avec les différents variants?
Alors, c'est une excellente question au sens où c'est très difficile en fait en réalité d'estimer le nombre de cas de Covid long. On estime qu'environ 10% des gens à 6 mois ont des symptômes qui persistent. Donc on peut imaginer avec les différentes vagues là qu'on a environ 10% de ces personnes-là qui ont encore des symptômes. La vraie question qui se pose là à l'heure actuelle, c'est Omicron. Est-ce que Omicron va donner autant de symptômes que les autres ou pas? Et donc là, ben, malheureusement, il faut toujours un peu de temps pour voir les choses. On dit que pour voir la sévérité hospitalière, il faut au moins 2 mois ou 3 mois après le début de l'arrivée d'un variant. Pour le Covid long, il va falloir au moins 5 ou 6 mois, et donc pour voir quel est l'impact de ce nouveau variant. Mais on n'a pas l'impression que les variants antérieurs, il y ait des grandes différences, à l'heure actuelle en tout cas.
Et nous retrouvons Christian. Bienvenue Christian.
Oui, bonjour.
Alors, quel est votre témoignage?
Eh bien, je suis vacciné 2 fois, mmh. et juste avant de mon 3e vaccin, j'ai été testé positif au Covid le 14 décembre dernier. Et depuis, bon, j'ai eu une phase de rémission, mais depuis que le hasard a voulu qu'il fallait que je passe un scanner, puisque j'avais un souci de dos, mm-hmm. et que lorsque j'ai eu les résultats du scanner, on m'a dit, mais vous avez aussi un problème au niveau des poumons, est-ce que vous avez eu le Covid? Ben, je dis oui, mais il m'a dit, ben, vous êtes dans une phase de Covid long, avec une pneumopathie assez sérieuse. Et donc depuis cette période, je me sens, alors que je suis plutôt sportif, je suis essoufflé, j'ai du mal, dès que je me marche 1 heure, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon, j'ai des douleurs au niveau musculaire qui sont récurrentes, et puis je dors, j'ai des soucis de sommeil alors qu'avant je dormais comme un bébé, quoi.
Tiens, sur ces symptômes respiratoires, docteur Laurent Usan, qui reviennent chez de nombreux patients atteints du Covid long.
Alors, il faut faire attention à certaines choses, parce que déjà, les scanners, les images mettent assez longtemps à disparaître. Hein. C'est comme quand on a une fracture, on a un cale osseux, etc. Donc, tout ne disparaît pas tout de suite. Donc, les images radiologiques ne sont pas synonymes nécessairement d'une pathologie en cours. D'accord, ça c'est une première chose. Après, effectivement, ces symptômes décrits de d'essoufflement à l'effort qu'on voit même chez des gens sportifs, hein, puisque monsieur court ou courait de façon régulière, on les a effectivement sur du Covid long. On est dans une phase quand même encore un peu intermédiaire, parce qu'on a à peine un mois et demi, deux mois des symptômes pour monsieur. Mais effectivement, il faut quand même déjà s'atteler à ça.
Il y a aussi l'hyperventilation, la respiration dysfonctionnelle.
Donc il faut effectivement commencer à le prendre en charge, parce qu'il faut pas qu'il reste avec cette symptomatologie qui n'est pas habituelle chez lui. Effectivement, il faisait du sport, il avait l'habitude de courir, donc il va falloir qu'on le réadapte dans sa reprise d'activité physique.
Peut-on dire que l'essoufflement est souvent sous-diagnostiqué, docteur Olivier Robineau ?
Oui, parce que en fait, déjà même indépendamment du Covid, hein, c'est un diagnostic compliqué parce qu'il se mélange souvent avec la fatigue. Et donc, faire la part des choses entre fatigue et essoufflement pour les patients et pour les médecins, c'est compliqué. Après, il y a certaines formes d'essoufflement un peu étonnantes que l'on a retrouvées dans le Covid, qu'on connaissait avant, mais en moindre proportion, que sont, par exemple, vous en avez parlé, le syndrome d'hyperventilation, où c'est pas des gens qui hyperventilent en continu, mais qui respirent un peu à côté de la plaque. Et donc, ce syndrome d'hyperventilation peut être associé à tout un tas d'autres symptômes qui peuvent être améliorés en réapprenant en fait à respirer.
Et ce qui est assez terrible aussi, c'est que on en a parlé un tout petit peu au début, mais il y a une angoisse générée par les symptômes. Cette angoisse aussi génère ces symptômes respiratoires, parce qu'on l'a tous vu, hein, quand on fait des crises de panique, on a ces symptômes à respirer de façon extrêmement rapide, courte, etc. Donc des fois, tout s'imbrique, et c'est vrai que c'est difficile pour les patients de comprendre qu'est-ce qui est vraiment physiologique, pathologique, qu'est-ce qui est juste de l'anxiété, et le problème, c'est qu'on les a traduits au départ comme étant des hystériques ou des hypochondriaques, et c'est là où on leur a fait perdre un temps immense au tout début.
Pourquoi faut-il mesurer la saturation d'oxygène ? La saturation d'oxygène, c'est le taux d'oxygène qui passe dans nos vaisseaux sanguins, et ce taux traduit la capacité des vaisseaux à transporter l'oxygène. Si ce taux de saturation de l'oxygène est inférieur à 95%, il faudra faire un bilan, c'est ça ?
Alors tout à fait, après il faut différencier quand même le Covid aigu du Covid long. Ouais. L'intérêt de mesurer la saturation en oxygène est surtout présente dans le Covid aigu.
Et dans le Covid long ?
Dans le Covid long, elle est moins importante parce que souvent on est déjà sorti de cette phase initiale où on va dire normalement les gens ont quand même récupéré sur le plan pulmonaire et sur le plan de la saturation. Donc effectivement, c'est moins problématique. Il faut le surveiller pour être sûr qu'on n'ait pas d'autres pathologies sous-jacentes. Mais effectivement, plus important dans le Covid aigu que dans le Covid long.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés cardiaques qui sont associées au Covid long ?
Alors là encore, effectivement, des difficultés cardiaques, on en a énormément. Et comme vous l'avez dit, les symptômes sont vraiment protéiformes et on a plein de signes différents. Les palpitations, ça c'est vraiment quelque chose qui revient de façon extrêmement importante. Palpitations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai le cœur qui s'emballe. Je suis au repos, puis il passe à 120 ou 140 battements par minute d'un coup. Je suis en effort, il n'arrive plus à s'accélérer. J'ai des battements irréguliers. Donc ça, c'est vraiment des symptômes qu'on voit très fréquemment. D'autant plus chez les sujets jeunes que chez les sujets plus âgés. Ça a permis d'ailleurs souvent de démasquer des pathologies déjà préexistantes sur ce côté-là. Après, on a eu effectivement ce qu'on appelait les péricardites ou les myocardites qu'on a vu sur le Covid, qui peuvent rester plusieurs mois, mais là, c'est un peu différent du Covid long. Et c'est des pathologies cardiaques liées au Covid qui vont persister. Des douleurs dans la poitrine qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est des douleurs qui font suspecter initialement la fameuse angine de poitrine et les infarctus, et qui en fait, quand on fait les examens, on retrouve des artères parfaites. Mais par contre, les gens se plaignent de ces symptômes qui sont typiques de l'angine de poitrine. C'est-à-dire, je marche, je suis à l'effort, j'ai mal dans la poitrine.
Et pourtant, les examens ne montrent rien de particulier dans ce sens-là.
Exactement, on a des examens cardiologiques strictement normaux dans ce cadre-là.
Alors beaucoup de malades du Covid long ressentent une forme de brouillard dans la tête. Comment l'expliquer, docteur Olivier Robineau ?
Alors
ce brouillard cérébral.
Le brouillard cérébral. Oui. Alors le brouillard cérébral, donc c'est le terme utilisé comme ça en langage courant, et en fait c'est un mélange de troubles de la mémoire et de troubles de la concentration. Et des troubles de l'attention également. C'est des gens qui recherchent leur clé 10 ou 15 fois par jour, par exemple, et c'est extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours. Alors on n'a pas encore d'explication formelle. Il y a beaucoup de patients qui, associés à ce symptôme, sont extrêmement fatigués. Et donc, il y a une part, probablement, de ces symptômes qui est liée à la fatigue et probablement également une part liée à l'essoufflement. Les symptômes sont en interrelation. Après, la grande question, c'est est-ce qu'il y a une part de ces troubles cognitifs qui est indépendante du reste et qui est due, en fait, à une atteinte par le virus en lui-même ? Et ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse.
L'une des signatures du Covid long, c'est une perte durable ou partielle du goût et de l'odorat. Oui. Comment expliquer ces pertes ?
Alors, Ça, c'est une des choses qu'on connaît le mieux et pourtant on le connaît pas encore très bien. Mmh. Et d'ailleurs, il y a encore des recherches qui vont, il y a vraiment une recherche très active là-dessus. Il y a un phénomène lésionnel hein, au niveau des muqueuses et des récepteurs que l'on a dans le nez, qui permettent d'acquérir les odeurs. Et en fait, les odeurs sont une grosse partie en fait de notre goût. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le nez et non pas dans la bouche. Donc c'est normal que les deux soient très associés. Ça fait partie des symptômes, mais c'est pas ceux dont se plaignent le plus les patients que l'on dit Covid long qu'on voit en consultation. C'est un symptôme prolongé, hein, ça fait partie du Covid long, mais c'est pas vraiment la plainte première des patients. Et c'est ça qui est étonnant, c'est quelque chose de quand même extrêmement handicapant, mais le reste prend le dessus.
Docteur Huzon ?
Juste pour rebondir effectivement sur le côté neurologique, on s'est rendu compte, notamment sur quelques études qui sont sorties récemment, qu'on avait ce qu'on appelle un hypométabolisme cérébral. C'est-à-dire comme si effectivement le cerveau fonctionnait au ralenti. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est la poule ou l'œuf par rapport aux symptômes, mais effectivement, chez les patients qui se plaignent de ces symptômes neurologiques, de troubles cognitifs, de difficultés de concentration, etc., cet élément-là a été mis en évidence. Mais effectivement, pour l'instant, on est dans une phase où effectivement, on découvre. Donc c'est difficile de pouvoir donner pour l'instant des explications. Le but étant de pouvoir surtout leur apporter des solutions.
Alors, quelles sont les bases pour se rééduquer après un Covid long? Donnez-nous les fondements de votre méthode, docteur Laurent Huzon.
Alors, c'est une méthode en fait qui a déjà été utilisée et qu'on a souvent utilisée dans le cadre de la cardiologie, parce qu'en fait, souvent, nous, on était confrontés dans ce qu'on appelle la réadaptation cardiaque à ces patients insuffisants cardiaques, ces gens justement qui font quelques pas, qui sont fatigués parce que leur cœur est tellement... a tellement du mal à se contracter que ça n'arrive plus à fournir de l'oxygène. Donc on a ces gens qu'on avait remis à l'effort, donc on avait déjà une certaine expérience par rapport à ça, et on s'est rendu compte, mais vraiment c'est avec de l'expérience, et Nicolas Barizien a mis en place ce programme-là, pour essayer d'adapter cette pratique aux gens qui avaient des Covid longs.
Et quelles sont les bases ?
Alors on s'est rendu compte effectivement qu'en les faisant travailler sur le côté respiratoire, avec des exercices respiratoires simples, d'abord de relaxation par exemple, puis de travailler sur les muscles respiratoires, comme le diaphragme, en leur apprenant à mieux contrôler la respiration. On a associé à ça des exercices d'endurance et de réadaptation cardiaque à l'effort. C'est-à-dire qu'on va les faire travailler de façon plus ou moins prolongée, en fonction de leur capacité, de leur fatigue justement, sur du vélo, du tapis, du rameur, des exercices musculaires. On s'est rendu compte que le renforcement musculaire est aussi un point extrêmement important. Alors c'est sûr qu'on ne va pas les faire devenir Schwarzenegger, on est bien d'accord, mais le but c'est de faire que, musculairement parlant, on reprenne un certain tonus pour améliorer justement la capacité d'oxygénation des muscles, les capacités musculaires, et faire en fait qu'on arrive à remettre les gens dans l'activité physique de façon progressive. C'est vraiment la progressivité qui est le point important.
Et l'alimentation ?
Alors l'alimentation fait partie effectivement de la prise en charge, tout comme le côté aussi encadrement psychologique, parce que on peut pas les prendre en charge sans aussi les accompagner sur les angoisses qui sont générées par ça. L'alimentation va les aider aussi à mieux se réguler, ça va les aider aussi à réguler, et notamment en complément avec l'activité physique, réguler ses troubles du sommeil, dont Christian a parlé par exemple, parce qu'il va falloir parfois décaler les horaires d'activité physique pour améliorer la phase de sommeil derrière. Même chose sur l'alimentation, on va leur apprendre à rééquilibrer à quel moment il faudra manger, qu'est-ce qu'il faudra plutôt privilégier comme aliment.
Par exemple, qu'est-ce qu'il faut privilégier ?
Par exemple, on va essayer d'éviter les excitants le soir ou en fin de journée. L'activité physique en fin de journée peut perturber le sommeil. On va essayer d'éviter, effectivement, par exemple, les thés, les cafés et autres à partir de 14-15 heures dans l'après-midi, parce que on sait que ça pourrait avoir des conséquences sur le sommeil. On va favoriser tout ce qui est antioxydants, oméga 3, etc.
Le régime méditerranéen, encore une fois.
Typiquement, oui, voilà, pour faire, on va dire, un petit peu classique sur ce genre de choses. Mais c'est des choses qui sont importantes parce que c'est des choses qui vont jouer aussi sur l'inflammation. Plus on mange gras, plus l'inflammation générale est importante. Donc on est sur une réadaptation globale, à la fois alimentaire, cardiaque, psychologique, pour leur permettre de sortir de ce pas-là.
Docteur Olivier Robineau, mot de conclusion, est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux ou est-ce que cette méthode-là peut être une voie pour guérir du Covid long ?
Alors cette méthode-là, c'est une sorte de médicament. Hein. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'optimiser l'individu pour qu'il puisse passer au-delà de ses symptômes. C'est la première chose. Après, ce qui est important, et pour tous les médecins, qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, il n'y a pas de traitement contre-indiqué. Et donc, quand les patients ont des plaintes, des symptômes, eh bien, on peut traiter ces gens par, s'ils ont des douleurs d'horaire inflammatoire, des anti-inflammatoires, de l'arythmie, il y a des traitements antiarythmiques avec l'avis du cardiologue, etc. Et donc, il n'y a pas de traitement contre-indiqué. Donc, pour l'instant, on est évidemment dans le traitement symptomatique. Il y a la rééducation progressive, adaptée. Il y a le soutien psychologique qui est absolument fondamental pour passer justement au-delà de ces symptômes.
Allez, restez avec nous. Dans un instant, Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale évoquera les dernières recherches sur le Covid long. En attendant, on écoute Gaëtan Roussel et Alain Souchon.
Les rues comme mes poches sont vides. avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides? Et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, splendide. Tant de sauvés grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Alain Souchon et Gaëtan Roussel interprétaient Sans sommeil. 10h48 et on évoque avec vous Thierry Lhermitte les dernières recherches soutenues par la Fondation pour la Recherche Médicale et en l'espèce les dernières recherches sur le Covid long. Tous les mois vous visitez un labo de recherche soutenu par la FRM. L'Institut Pasteur vous a accueilli. Le projet de ces chercheurs est le fruit d'un appel à projet lancé en fin 2021 par les pouvoirs publics. La FRM y était associée. Vous riez de mes bafouillages, c'est bien.
Non, c'est pour la suite. Oui, oui, alors je précise, parce que c'est important, il s'agit de la première vague de financement sur le Covid long. Un second appel à projet national est en cours, auquel la FRM est également associée, et elle apportera donc son soutien à de nouveaux projets rapidement. Et ce sera probablement sur d'autres symptômes que les symptômes neuropsychiatriques dont je vais vous parler, car la FRM est consciente que les patients peuvent avoir des atteintes très variées et ont besoin de l'aide des chercheurs.
Donc cette visite.
Alors j'ai rencontré deux chercheurs qui depuis 2 ans se consacrent au SARS-CoV-2 et à la Covid et collaborent régulièrement ensemble. Guilherme Diaz de Mello, un jeune chercheur post-doctorant vétérinaire de formation qui travaille dans le laboratoire Lysavirus, épidémiologie et neuropathie, dirigé par Hervé Bourri, et ils étudient les virus de la rage qui infectent les cellules nerveuses. Et d'autre part, Pierre-Marie Liedo, qui dirige le laboratoire Mémoire et Perception et travaille notamment sur la mémoire, la perception sensorielle ou les liens entre microbiote intestinal et fonction cérébrale. Durant ces 2 années de pandémie, au sein d'un consortium à Pasteur, ces chercheurs ont déjà publié des découvertes intéressantes, ce qui les a menés chacun à un projet sur le Covid long.
Et quelles ont été ces découvertes tout d'abord?
Ils ont montré pour la première fois que le virus infectait les neurones olfactifs. Les neurones olfactifs, ce sont les cellules nerveuses situées tout en haut du nez, dans une couche de cellules qui s'appelle l'épithélium olfactif. Ces neurones sont là pour capter les odeurs et transmettre les informations reçues au cerveau.
Et ça explique la perte de l'odorat, j'imagine.
Mais oui, mais il fallait le prouver. Et ils l'ont fait. Ils ont d'abord étudié un modèle animal, un hamster qui peut être contaminé par le SARS-CoV-2. Ils ont découvert qu'en infectant les neurones olfactifs, le virus détruisait l'architecture de cette couche de cellules et leurs cils. Les cils, ce sont les petits prolongements des neurones sensoriels sur lesquels justement se trouvent les récepteurs aux odeurs. Et plusieurs tests ont montré que sans les cils, l'animal perd l'odorat, mais il le récupère en 10 jours.
Et chez l'homme?
Ils ont montré que c'est le même processus qui conduit à la perte de l'odorat. Et grâce à une technique mise au point avec les ORL de Lariboisière, ils peuvent récupérer un échantillon d'épithélium olfactif chez ces patients. C'est une sorte de frottis sous anesthésie locale avec une toute petite brosse. Et ils ont découvert ainsi que le virus avait le même effet destructeur et provoquait aussi une inflammation autour des neurones. Du coup, ça ouvrait la possibilité que le virus et l'inflammation puissent pénétrer dans le cerveau, puisque les neurones de l'épithélium nasal se prolongent par leurs axones à travers la boîte crânienne jusqu'au bulbe olfactif qui se trouve dans le cerveau.
Et c'est ce qui se passe.
Il semble que oui. Chez le hamster, l'équipe a mis en évidence du matériel génétique viral dans plusieurs endroits du cerveau. Et par leur technique de frottis, ils ont aussi découvert du virus chez des gens souffrant de Covid long avec perte d'odorat, alors que leur test PCR classique avec l'écouvillon était négatif.
Ça veut donc dire que le virus reste caché quelque part dans ces neurones olfactifs ?
Et c'est précisément ce que voudrait comprendre Guilherme. Et une hypothèse serait que le virus se cache dans les cellules souches de l'épithélium qui vont se mobiliser après l'infection et la guérison pour recoloniser le nez. En effet, les cellules souches de cette zone sont très actives. Son projet s'appelle Long Neuro Covid et vise à comprendre quel rôle peut jouer cette invasion du système nerveux et l'inflammation qui provoque dans certains symptômes du Covid long, en particulier la perte de l'odorat, l'anxiété et la dépression. Et pourquoi ces symptômes psychiatriques ? Peut-être parce que le bulbe olfactif est localisé dans le cerveau, près des zones qui traitent des émotions comme l'amygdale.
Et comment va-t-il faire ?
Il va poursuivre ses travaux chez son modèle de rongeur, en recherchant d'abord les symptômes persistants après la Covid. Il y a en effet quelques résultats préliminaires qui montrent que ça existe aussi chez le hamster. Pour ça, il prévoit toute une batterie d'examens physiologiques, mais aussi des tests comportementaux, pour suivre les troubles olfactifs, les troubles de la mémoire, l'anxiété ou la dépression.
Alors, quels sont ces tests ? On a du mal à les imaginer.
Pour la capacité olfactive, on peut cacher de la nourriture et voir en combien de temps le rongeur la trouve ou pas s'il a perdu l'odorat, ou encore mettre une odeur répulsive ou attractive et étudier la réaction. L'anxiété, elle peut être évaluée en observant comment l'animal explore un environnement nouveau, par exemple composé d'une partie éclairée et d'une partie sombre. Un animal anxieux restera plus de temps dans la partie sombre où il se sentira en sécurité. Et pour l'apprentissage et la mémoire, par exemple, on place dans la cage deux objets identiques. On laisse le rongeur les explorer et puis on les enlève. Et le lendemain, on replace un des deux objets de la veille et un nouveau, différent. Et un animal sans problème de mémoire passe moins de temps à examiner l'objet identique et plus de temps à découvrir le nouvel objet.
Et si les rongeurs montrent bien des symptômes similaires à ceux rencontrés chez l'homme ?
C'est bien ce qu'espère Guilherme, et là les analyses biologiques entrent en jeu. Il cherchera les voies et les structures cérébrales impliquées en regardant dans lesquelles il y a du virus et de l'inflammation et quel est leur rôle dans les symptômes à court et à long terme. Et il utilisera pour ça des réseaux de neurones humains cultivés au laboratoire, et par des techniques très complexes, il essaiera de comprendre comment le virus se propage à l'intérieur des neurones et entre ces cellules. Et enfin, il cherchera s'il y a une différence entre les variants du virus. On sait par exemple qu'il y a beaucoup moins de pertes d'odorat avec Omicron.
Alors ça, c'est un projet très très intéressant. Quel est le projet mené par Pierre-Marie Liedo sur le Covid long ?
Alors, dans ce projet qui s'appelle ETOC, pour Étude des troubles olfactifs et cognitifs, il s'agit d'étudier 30 patients atteints de perte de l'odorat depuis au moins 8 mois après l'infection. D'après les premiers résultats, cette perte de l'odorat pourrait bien signer la persistance de l'infection virale et de fait expliquer ses symptômes de Covid long. C'est ce que voudrait vérifier Pierre-Marie Liedo. Donc l'idée là aussi, c'est de faire une batterie de tests chez ces patients au moment de leur recrutement, puis 12 mois plus tard pour voir l'évolution. Ces études complexes seront pluridisciplinaires parce qu'il faudra en effet analyser les échantillons de cellules olfactives prélevés par frottis, mais aussi faire passer aux patients des tests neurologiques, de mémoire, de langage et psychiatriques pour les émotions. Et bien sûr, toute une série de tests olfactifs très pointus, mis au point avec un ingénieur pour enregistrer la réaction cérébrale à la présentation de différentes odeurs.
Et au final, qu'est-ce qu'espère... Merci Thierry de cette relance. Qu'est-ce qu'espèrent obtenir ces chercheurs ?
Ils espèrent comprendre les mécanismes qui mènent aux troubles neurologiques et psychiatriques du Covid long pour les prévenir et mieux les prendre en charge. Et cela pourra aussi bénéficier à d'autres maladies induites par des virus qui touchent le cerveau et le système nerveux, comme le virus de la rage ou le Zika.
Thierry Lhermitte, comment aider la FRM sur les recherches sur le Covid long ?
En envoyant le message don par SMS au 92 300, et 10 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique.
J'ai bien remarqué votre rire moqueur sur mes petits bafouillages.
J'avais mis des pièges, c'est pour ça.
Je me vengerai. votre regard, docteur Laurent Usan et docteur Olivier Robineau, sur ces recherches ?
Eh bien, c'est hyper important de financer ce genre de recherche, et donc on peut remercier la FRM et la NRSMIE qui a participé à l'organisation de tout cela. Les dons sont très importants pour ce genre de choses, et c'est vraiment l'espoir, il est là, il est dans les équipes qui se mobilisent, qui font ça en plus de leurs travaux habituels. Ça, il faut bien le garder en tête, c'est que c'est une maladie en plus qui s'est rajoutée en plus à tout ce que tous ces gens faisaient avant.
Pour terminer, un message d'espoir pour tous ceux qui sont atteints de ce Covid long, docteur Laurent amusant, Marie-Pierre Samitier ?
Un message d'espoir. On a vu que la recherche est compliquée. Donc, en attendant, effectivement, mieux vaut qu'on réussisse à traiter quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Mmh. Effectivement, c'est les portes de sortie qu'on essaye de proposer à travers notre prise en charge, à travers la prise en charge que font différents centres aussi. Et donc, effectivement, pouvoir donner un espoir de, en appliquant, en essayant d'appliquer ce genre de choses, il y a un retour possible à la normale.
Docteur Robineau ?
Oui, il faut quand même dire quelque chose de très positif, c'est que la plupart des patients s'améliorent au cours du temps. C'est long, mais on a quand même beaucoup de patients qui vont beaucoup mieux. On a évidemment des patients qui restent dans un état très inquiétant, mais la plupart des gens évoluent bien avec le temps et il faut réduire cette période grâce à tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
Marie-Pierre Samitier.
Écoutez, si nous avons écrit ce livre, c'est justement pour proposer des outils. Je dirais que l'activité physique est très importante. Moi, je voudrais rappeler ce que disait Hippocrate. Si vous vous portez pas très bien, faites une promenade. Si ça ne va pas mieux, faites une deuxième promenade. Et donc, effectivement, il y a de l'espoir parce qu'il y a des possibilités et la recherche qui évolue. D'où l'importance aussi des dons qui vont pouvoir aider cette recherche.
Rappelez pour les dons.
Le message don par SMS au 92 300 et 10 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique.
Et merci Thierry Lhermitte, on vous retrouve évidemment le mois prochain. Merci beaucoup docteur Olivier Robineau. Merci docteur Laurent Usan et Marie-Pierre Samitier. Je recommande la lecture de Covid long, comment s'en sortir, et c'est publié chez Marabout. Demain, sommes-nous tous devenus hypochondriaques? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.